sur CIBL 101.5 FM.
Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers à classer, puis Sonia qui est encore là. Oh, j'ai faim.
Il est midi.
CIBL
105.
Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios de CIBL, coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Sophia Zito avec vous pour la prochaine heure et comme chaque semaine, je vais à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Notre invité cette semaine nous est référé par le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de l'Université McGill, qui est un partenaire de contenu officiel de notre émission. Intention Inc. est également disponible pour la réécoute sur les divers supports balado et sur notre site intentioninc.ca. Timothée Bernard est ingénieur de logiciels de formation, puis au cours de sa carrière, il a participé dans le développement de pas moins de 5 startups dans différents rôles et il a eu l'occasion de commercialiser des projets qui ont amélioré la qualité de vie de centaines de milliers de patients dans le domaine médical. Timothée Bernard est le cofondateur de Vope Medical, son plus récent projet. Vope Medical est une jeune pousse montréalaise qui développe des solutions de chirurgie assistée par ordinateur. L'objectif est que chaque chirurgie endoscopique bénéficie d'une vision de premier ordre en temps réel pour permettre aux chirurgiens de se concentrer sur les aspects cruciaux de leur travail sans compromettre la clarté et l'efficacité. Vope Medical a été sélectionné pour participer à l'édition 2023-2024 de la tournée internationale de financement pré-amorçage du Centre Dobson. Timothée Bernard, bienvenue à Intention Inc.
Merci, un vrai plaisir d'être là.
Oui, puis là, on tombe dans les chirurgies endoscopiques, mais on va rendre ça facile. Avant que tu nous parles peut-être de plus en détail de qu'est-ce qu'est Vope Medical, moi, j'aimerais te connaître un peu plus que qu'est-ce que j'ai décrit rapidement de toi. Alors, oui, je pense que tu es peut-être un hyperactif, tu es à ta 5e start-up. outre le fait que tu travailles au niveau des startups, c'est qui est Timothée Bernard?
Alors pour rectifier, en fait, il y a 5 startups, mais Vope Medical c'est la première en tant que cofondateur. Mais c'est ça, au cours des à peu près 12 dernières années, j'ai travaillé dans 5 startups différentes à Montréal dans le domaine de la santé avec des beaux succès et parfois des succès un petit peu plus mitigés parce que c'est le monde des startups tout simplement.
Effectivement, puis de toute façon, tu dois avoir appris autant des succès plus mitigés comme tu parles.
Je dirais même que c'est plus formateur. C'est plus formateur justement de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire que réellement qu'est-ce qu'il faut savoir faire à chaque fois.
C'est vrai. On dit qu'on apprend plus de nos échecs. Pas que je veux qualifier ça d'échec, mais comme tu dis, si ça n'a pas été le succès nécessairement, ça a sûrement aidé pour d'autres projets dans lesquels tu as été impliqué. OK, mais là, tu m'as répondu en politicien parce que tu ne m'as pas parlé de qui tu es toi avant qu'on parle, mais j'aimerais qu'on revienne, c'est sûr, au rôle que tu as eu dans les autres startups. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a amené peut-être on commence par ton parcours professionnel, ton parcours aussi d'études. Donc, étudié pour être ingénieur au niveau logiciel.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait mes études en ingénierie, mais ma passion pour la santé, ça date de vraiment très, très longtemps. Déjà, quand j'étais enfant, je m'intéressais à la santé. Je voulais être, à un moment dans ma vie, je voulais aussi être docteur. Finalement, un docteur m'avait découragé d'être docteur.
C'est un petit Pourquoi? Peu...
Si je me souviens bien, c'est une personne qui était pas très très loin du burn-out. Et justement, l'école dans laquelle j'étudiais, je pense que j'avais peut-être 12 ans à l'époque, avait invité différents corps de profession, dont un docteur. Et quand j'étais allé le voir avec un gros sourire, « Ah, j'aimerais ça être docteur », il m'avait dit « Ah non, fais surtout pas ça ». Et puis je sentais dans son regard. Mais après, je dirais pas que c'est la raison pour laquelle j'ai finalement pas fait des études en médecine. C'était aussi une période dans ma vie où j'ai découvert l'informatique. J'ai eu mon premier ordinateur assez tard là, par rapport à mes amis. Et dès que j'ai découvert ça, j'ai vu le potentiel. Et puis à un moment, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas allier les deux, à savoir la santé et justement la technologie. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait des études plus orientées en ingénierie logicielle parce que j'aimais beaucoup développer du logiciel déjà quand j'avais peut-être 14 ou 15 ans.
Ah oui, déjà à cet âge-là,
tu
voyais le coding, mais tu codais, j'imagine, pour développer des logiciels.
Oui, ouais, c'est okay, ça. Je faisais mes premiers sites Internet quand j'avais 14 ou 15 ans.
C'était... Ah, le talent! Fait que déjà là, c'est ça, je dis ça surtout quand on vient d'un milieu où... de ma perspective à moi, où c'est quelque chose qui nous est peu familier. Je ne me vois pas être en train de développer un site Internet, mais fait que toi, c'était... Donc, tu es tombé dedans facilement, tu avais de la facilité pour ça, puis tu as décidé de venir joindre tes deux passions, le médical et, dans le fond, l'informatique.
Oui, c'est exactement ça. Puis encore aujourd'hui, très, très content d'avoir fait ce choix-là et travailler dans ce domaine.
Ben oui, parce que, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a tellement de technologies... Toutes les technologies viennent faire avancer le domaine médical. Mais c'est interrelié, puis c'est là que ça s'en va. Absolument, tu sais, quand on participe à des startups ou des shows comme... J'utilise beaucoup d'anglicisme en ce moment. mais on va même dans des conférences de la santé. C'est toutes des nouvelles technologies qui viennent permettre de faire avancer la santé.
Donc, c'est ça.
Fait que t'étais vraiment au cœur de ça. Puis là, tu disais que tu avais le médical. Donc, toi, tu étais en train d'étudier, tu fais ton génie. Puis déjà là, est-ce qu'il y avait une spécialité qui permettait de s'enligner vers le domaine santé? Ou ça, c'est quelque chose que tu as acquis une fois que tu as gradué? Par la nature des projets dans lesquels tu travaillais?
Alors, j'avais pas vraiment des cours qui étaient spécialisés dans la santé, mais en parallèle de ma première année de maîtrise, j'avais un emploi à temps partiel dans le domaine de la santé. Et justement, en tant que... c'était même pas en maîtrise, c'était en dernière année de bac. Ouais, c'est ça. J'avais aussi trouvé ce qui était au départ juste un stage d'été, qui est devenu par la suite un emploi à temps partiel. Et c'était en France, à l'époque, à Lyon, dans une compagnie qui faisait de la conception assistée par ordinateur de prothèses et d'orthèses. Donc, pour moi, c'était une première immersion.
Ça a été une révélation.
Ah oui, ça a été une révélation complète. Je me suis dit... C'était en 2011, c'est ça, c'était en 2011, ça commence à dater. Mais quand je me suis dit que je pouvais appliquer mes connaissances pour que des personnes puissent être soignées par rapport avec une prothèse ou avec une orthèse, que ces personnes-là puissent remarcher, pour moi, ça a été une révélation complète de me dire que mon travail pouvait servir aider la vie
des autres. Est-ce que ça a toujours été ça l'intérêt à la base? Est-ce que toi, la raison pourquoi tu voulais aller au médical au départ, c'était vraiment pour sentir que tu allais aider les gens?
Pour moi, ça a toujours été quelque chose de très, très important dans ma vie, de vraiment m'assurer que ce que je fais au quotidien est aligné par rapport à mes valeurs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler dans le domaine médical, parce que à la fin de la journée, on aide des personnes.
Ouais.
Et en parallèle, le petit plus, c'est que j'aime bien la technologie, j'aime bien développer de la technologie, donc je viens allier ces deux mondes-là.
Et là, ça t'a permis de faire, c'est ça, ça t'a permis de savoir qu'à chaque fois que tu faisais un logiciel en santé, tu sais que directement l'impact, c'est d'aider les gens.
C'est ça.
Donc là, tu es à Lyon.
Ouais.
Tu travailles là, tu viens de voir que c'est possible de venir combiner ces deux passions. Mais là, maintenant, on est au Québec. Fait que comment, comment est-ce que tu étais venu? Qu'est-ce qui t'a amené à venir à Montréal?
Eh ben, j'avais justement l'opportunité de faire ma maîtrise à Montréal. Et au départ, c'était juste venir faire ma maîtrise. Donc, pourquoi est-ce que je suis encore là aujourd'hui? Tout simplement parce que, six mois après être arrivé au Québec, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui ma conjointe et que j'embrasse très, très fort quand elle va écouter.
On salue, on est contents. ça nous a amené du bon talent. Mais ça arrive. Puis cette histoire-là, on l'entend souvent, c'est toujours sympathique. Les gens viennent étudier ici, finalement, ils rencontrent quelqu'un puis ils décident de s'installer. Puis j'imagine aussi... Bien, là, je ne peux pas mettre des mots dans ta bouche. C'est quoi, ta perception? Parce que là, vous avez été accompagné par le centre Dobson. Il y a quand même beaucoup d'accompagnement pour les jeunes pousses ici.
Mm-hmm.
Donc, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Parce que tu as participé, tu as fait la maîtrise. Puis rapidement, j'imagine que tu t'es tombé dans l'univers de l'accompagnement.
Pour être honnête, à Montréal et au Québec, il y a un écosystème, surtout dans les technologies de la santé, qui est formidable. Je pense par exemple au Santech, je pense par exemple au CTS, je pense aussi à MedTech Plus, à Montréal InVivo. Je sais que récemment aussi, vous avez eu des discussions avec Esplanade Québec, il me semble.
Oui, c'est un de nos partenaires de contenu officiel
également. C'est ça. C'était,
oui,
c'était vraiment très, très intéressant. Il y a un écosystème à Montréal qui est très, très fort et qui vient accompagner les jeunes pousses vraiment de l'idée jusqu'à comment est-ce qu'on structure une compagnie. Quelle feuille de route est-ce qu'on vient mettre en place jusqu'à ensuite, voire même jusqu'à la commercialisation, voire même jusqu'à l'expansion à l'international. Il y a beaucoup d'efforts qui est mis, surtout, je parle surtout pour les technologies de la santé, je ne connais pas trop exactement les mêmes
technologies
domaines.
En général, c'est ce qu'on entend. Mm-hmm. Puis on sait qu'on en a besoin au niveau de la technologie de la santé. Donc on espère, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui misent là-dessus peut-être pour aider dans des problèmes qui semblent insurmontables en ce moment dans le domaine de la santé. Ça reste à voir, mais au moins, on sait que les efforts sont mis, effectivement, les commentaires. Puis il y a des gens qui choisissent de venir, des fois, s'installer ici à cause de cet accompagnement-là. Mm-hmm. Peut-être, toi, c'est pas la raison, c'est l'amour qui t'a amené à rester, mais j'imagine que... Timothée, pour les gens qui ne voient pas un gros sourire. Mais c'est ça. Il y a tout le reste aussi qui vient jouer, j'imagine, dans votre compagnie actuelle. Là, avant de fonder Vote Medical, tu étais dans des rôles clés pour d'autres startups.
C'est
donc,
ça.
Comment ça s'est fait? Là, tu as fait ta maîtrise ici.
Oui.
Puis tu t'es rapidement rendu, tu es devenu impliqué dans une start-up au niveau de la santé. C'était oui. Quoi le premier projet pour lequel tu as travaillé?
La première compagnie que j'ai rejoint justement dans le domaine de la santé à Montréal, c'est une compagnie qui s'appelle Dental Wings, qui est quand même assez connue pour les personnes dans notre domaine, qui fait des scanners dentaires.
Pour faire des... dans quel but? Un scanner dentaire pour... Juste comme pour les dentistes, pour voir, avoir une imagerie ou...
Non, l'objectif, c'est plus la restauration dentaire. Donc, par exemple, venir faire un scan pour avoir l'empreinte dentaire, pour pouvoir ensuite remplacer une dent.
Au lieu de faire l'ancienne technique où est-ce qu'il fallait que tu mettes comme une genre de pâte, puis c'est ça?
Oui,
c'est
ça. Pour remplacer
ça. OK, donc on n'a plus besoin de prendre des empreintes physiques. C'est fait maintenant au niveau 3D, j'imagine,
ce scan? Il y a encore les deux. Les deux se font. Il y a à la fois la pâte, mais il y a aussi justement les sondes, ce qu'on appelle les sondes intraorales, qui rentrent dans la bouche et qui permettent de venir scanner les dents.
OK, fait que là, ça, c'est le premier projet pour lequel tu as travaillé.
C'est ça.
Puis ensuite de ça, là, après ça... Tu sais, tu peux nous parler des projets dans lesquels tu étais impliqué?
Oui, bien sûr. Il y avait vraiment des très, très beaux projets à Dental Wings. Je suis resté là à peu près 4 ans. Et ensuite, j'ai rejoint une autre compagnie qui s'appelle Imagia, qui était vraiment connue aussi à l'époque. Et là, c'était pour travailler sur la détection du cancer du côlon en temps réel pendant les colonoscopies.
Oh là là, donc, OK. Ouais, puis ça, on est directement dans un sujet... qui est d'actualité. Là. On sait qu'il y a une détection maintenant. Le gouvernement a mis en place un programme de détection qu'on n'avait pas ici. On était un petit peu en retard, là, mais pour les 50 ans et plus.
Ah, c'est pour les 50 ans et plus?
Oui, okay, pour okay. L'instant. Mais c'est
parce que récemment, j'ai vu des discussions pour encore abaisser cette limite d'âge-là.
Ah oui?
Oui.
Fait que c'est ça. Fait que ça, dans le fond, j'imagine que c'était pour aider pour la détection. Fait que tu as travaillé là-dessus.
C'est ça.
Mais toujours au niveau de l'imagerie, ce que j'entends.
C'est ça. C'est toujours... En fait, toute ma carrière, ça a été surtout au niveau de l'imagerie. Et cette expérience-là, pour moi, elle était vraiment très, très intéressante. C'était en 2018 parce que c'était la première fois où, en plus du logiciel, des appareils médicaux, je développais des solutions d'intelligence artificielle.
OK. Peux-tu m'expliquer plus comment ça s'intégrait?
Alors, la manière dont ça s'intègre, en fait, c'est pendant une colonoscopie,
oui.
on développe des solutions qui vont permettre de repérer ce qu'on appelle des polypes. Et des polypes, c'est oui. Tout simplement on peut appeler ça comme des pré-tumeurs. Et le but de la colonoscopie, c'est de savoir justement combien est-ce qu'il y en a dans l'intestin et quels sont leurs stades, à quel point est-ce qu'elles sont avancées ou non.
Ça permet de déterminer, j'imagine, à quel point tu es à risque de cancer, puis là, de savoir est-ce qu'on doit s'inquiéter, est-ce qu'il doit y avoir un suivi plus rapproché. C'est tout le genre d'informations qui permettent de prendre ces décisions-là par la suite.
Exactement. Et justement, l'objectif de développer des solutions d'intelligence artificielle, c'est de pouvoir repérer des polypes que le gastro-entérologue n'a pas forcément vus.
OK, l'intelligence artificielle est capable de voir ça.
C'est ça.
De par...
Le but, c'est de l'entraîner pour qu'à partir d'images de colonoscopie, elle puisse dire, ah, est-ce que tu es sûr qu'à cet endroit-là, tu n'as pas loupé quelque chose? Il y a
peut-être un polype. Qui fait qu'elle vient compléter le travail du gastro-entérologue.
C'est ça.
Pour
L'objectif, ça n'a jamais été de remplacer les gastro-entérologues. C'était vraiment leur apporter un outil qu'on pourrait appeler de décision, enfin de support à la décision, pour pouvoir voir justement ce qui aurait pu être manqué.
Okay. C'est là que l'intelligence artificielle vient compléter le logiciel d'imagerie.
Exactement.
Sur lequel tu travaillais. Puis dans le fond, tout ça, ça rime pour venir aider dans VOAP, parce que VOAP, c'est ça. C'est de l'imagerie, bien, puis c'est de l'intelligence artificielle.
C'est exactement ça, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Amy, qui est la fondatrice originale de VOAP Medical. Moi, j'ai rejoint ensuite en mai dernier en tant que CTO et cofondateur. Mais c'était de par mon expérience précédente en endoscopie et en intelligence artificielle que j'ai senti que c'était la start-up dans laquelle je pouvais apporter le plus.
Donc là, comment ça se passe? Amy t'approche parce que elle a l'idée, elle aussi a le background, mais c'est toi qui as l'expertise du développement logiciel avec l'intelligence artificielle, spécifiquement en plus pour l'endoscopie.
C'est exactement ça, ouais. C'est mon rôle en tant que directeur de la technologie chez VOAP Medical. Je pars d'un besoin clinique qu'on aura l'occasion d'expliquer
oui.
un petit peu
oui,
plus, j'imagine. Et je transforme ce besoin-là clinique en solution technologique.
Ça sera un bon moment de nous expliquer vraiment c'est quoi VOAP Medical. Parce qu'on a quand même un peu mis la table, mais pour que les gens soient capables de bien visualiser qu'est-ce que vous faites.
Oui, très bien. VOAP Medical, c'est vraiment une jeune pousse montréalaise qui œuvre dans ce qu'on appelle la chirurgie numérique ou parfois aussi la chirurgie assistée par ordinateur. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la mise en place d'outils technologiques dans les salles d'opération pour assister les chirurgiens et les chirurgiennes à effectuer, par exemple, à avoir plus d'indications sur les anatomies. Il peut y avoir vraiment plusieurs cas différents. Nous, là où on se spécialise, c'est sur la visibilité de la chirurgie et surtout pour les chirurgies qu'on appelle minimalement invasives ou les chirurgies endoscopiques.
Ça, on peut en parler parce que moi, je suis allée voir qu'est-ce que vous faites, puis la différence de qualité. Puis, ce que je comprends, c'est que quand il y a une endoscopie, il y a une petite caméra qui est... Justement, on fait une petite incision, puis là, les chirurgiens vont introduire une caméra pour aller voir. Puis la caméra, la lentille, se salit tout le temps. Avec tout le liquide dans le corporel, le sang, etc. Puis ça amène jusqu'à 37 % d'erreurs ou de... Pas d'erreurs, mais de complications. Ils doivent ressortir la caméra, la nettoyer. Là, corrige-moi. Là, j'ai bien compris.
C'est pas exactement 37 % d'erreurs de...
Je te laisse peut-être, toi, reprendre le relais là-dessus. Tu es quand même mieux placé que moi.
Oui, excellent. Ce qu'on voit dans la littérature, et ça s'applique surtout à toutes les chirurgies qu'on pourrait qualifier d'un petit peu étroites. Ça peut être, par exemple, les chirurgies au niveau des sinus.
Oui.
C'est une partie qui est vraiment très, très étroite, ou des chirurgies au niveau du rectum aussi. Et ce que dit la littérature, c'est que 37 % du temps, ce que voit le chirurgien n'est pas adéquat. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas adéquat? Parce que comme ce sont des sites assez étroits, la lentille est souvent en contact avec les tissus, avec les fluides. Il peut y avoir aussi, dans d'autres cas de chirurgie, de la fumée. Il peut y avoir aussi de la condensation. Donc, en fait, 37 % du temps...
Ils n'ont pas une image claire.
On n'a pas une image claire, c'est ça.
Donc, c'est quand même beaucoup, parce que là, on parle de plus que le tiers de ce que le chirurgien chirurgienne voit qui est embrouillé.
C'est ça.
Puis, dans le fond, c'est ce que vous venez changer. Vous vous adressez à ce problème très spécifique-là.
C'est ça. C'est un problème assez niche. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient développer une solution d'intelligence artificielle qui vient clarifier ce que le chirurgien ou la chirurgienne va voir, et en plus en temps réel. L'aspect temps réel est assez important. Et c'est extrêmement important.
Explique-nous en détail comment ça se passe. Parce que là, tu dis que c'est l'intelligence artificielle qui vient clarifier ça en temps réel. Donc, moi, là, je connais rien là-dedans. Donc, tu m'expliques comment ça fonctionne pour que je comprenne bien. Parce que, tu sais, j'ai lu, là, mais... Puis je voyais la différence des deux images, parce que si vous allez voir sur le site, on voit comme l'image avant que vous appliquiez votre solution. Puis après, c'est ça, l'image après, bien, c'est clair. Fait que là, j'imagine que là, c'est là que... Parce qu'eux autres, ils vont utiliser ce qu'ils voient pour après ça donner des diagnostics ou prendre des décisions pour quoi faire par la suite. Fait que c'est important d'avoir une image claire.
Oui, ça aide surtout... c'est une solution qui va aider les chirurgiens et les chirurgiennes sur plusieurs plans. Un des premiers plans, c'est vraiment pour réduire les temps de chirurgie. Parce qu'à cause de ces problèmes de visibilité-là, ils doivent souvent retirer les instruments, les nettoyer, les réinsérer. Okay. Parfois, ça peut prendre, dans le meilleur des cas, 10 secondes. Mais on a eu au cours des dernières semaines l'occasion avec Amy d'aller vraiment en salle d'opération pour voir ce qui se passait. Et une fois, ça a pris 2 minutes, simplement parce qu'on retire, on nettoie, on réinsère. Ah, c'est pas bien nettoyé, on le refait. Puis ça a duré à peu près 2 minutes.
Ça paraît rien, mais chaque minute compte dans une chirurgie. Puis également, j'imagine qu'à chaque fois que tu fais ça, il y a peut-être un risque de quelque chose d'autre qui se passe. Parce qu'à chaque fois que tu rentres, tu retires, on parle quand même d'insertion dans le corps. J'imagine que ce n'est pas souhaitable. C'est souhaitable de retirer le moins souvent possible.
Alors, je ne pense pas que le fait de retirer la caméra puis de la réinsérer, je ne pense pas que ça change parce qu'en fait, dans les chirurgies minimalement invasives, on va faire une petite incision puis oui. On va venir mettre ce qu'on appelle un trocar. Et ensuite,
c'est là-dedans que c'est inséré.
Et ensuite, c'est ça, on insère là-dedans. Donc, okay. c'est pas comme si on prenait la caméra et qu'on l'insérait
directement
dans la peau.
Tu vois comment,
la peau.
Quand je dis que je connais pas ça. OK, ben, je comprends bien. Mais les chirurgiens, eux, veulent éviter d'avoir à faire retirer, parce que s'ils sont obligés de le faire plusieurs fois, c'est juste moins efficace.
C'est surtout des discussions qu'on a avec les chirurgiens et les chirurgiennes, c'est surtout au niveau de la charge mentale.
Oui.
Une chirurgie, il faut être extrêmement concentré. Dans certains cas, les structures peuvent être extrêmement critiques. Et justement, devoir à chaque fois s'interrompre dans son travail, venir retirer, venir nettoyer, venir réinsérer, ou alors on est en plein dans une manœuvre extrêmement critique et tout d'un coup, il y a un petit peu de flou, on ne voit pas exactement ce qu'on fait.
Ça fait tout comme le momentum, la concentration.
C'est exactement ça.
Parce que les autres, ils voudraient continuer à pouvoir voir qu'est-ce qui se passe puis être toute leur concentration là-dessus. Mais là, tu vois, ça devient très clair pour moi à quel point c'est important. Là. Bien, c'est sûr que déjà, on parle de, tu sais, quand on fait quelque chose, d'avoir de la clarté d'image, il y a une évidence à ça, mais de pourquoi, à quel point c'est important dans les cas précis, que c'est comme dans l'endoscopie ou, comme tu dis, dans des endroits où c'est étroit puis c'est critique, là, ça prend tout son sens. Donc là, l'intelligence artificielle, comment elle permet en temps réel d'éclaircir l'image?
Notre solution, elle va venir s'insérer dans la salle d'opération. Et un des gros avantages, je dirais, c'est qu'elle est compatible avec les équipements qui sont déjà présents. Donc, il n'y a pas besoin de changer toute la configuration. Ça s'intègre très, très bien. Et on vient capturer le signal, on vient l'améliorer en temps réel et ensuite, on vient tout simplement l'afficher. Pour le chirurgien ou la chirurgienne pendant l'opération.
Votre technologie, c'est quelque chose... Donc, quand tu dis que ça s'adapte déjà à qu'est-ce qui est là, j'ai une caméra en salle d'opération, fait que j'ai déjà un logiciel ou un système qui me permet de voir l'image. Là, je viens me procurer le logiciel de Vote Medical ou Vote Médical que je peux... Je fais juste un ajout à mon système existant. Ça vient bonifier l'image que je vois.
C'est exactement ça.
Fait que c'est facile pour c'est facile de l'implanter, le système.
Oui, c'est facile et c'est surtout très avantageux pour les hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'équipement à changer.
Oui, puis on peut juste imaginer d'un point de vue même bureaucratie, argent que ça représente, quand tu es obligé de vendre une solution, que ça te prend un nouveau système, ça doit être un frein majeur. Bien, avec ce que tu me dis, Timothée, quel est le taux de pénétration dans les hôpitaux québécois de votre produit?
Alors, pour l'instant, on n'est pas rendu à l'étape de commercialisation. On est plutôt en validation qu'on pourrait appeler préclinique.
Oui, comment ça fonctionne, ça?
Alors, en fait, il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne, le cycle de vie d'une technologie médicale. Généralement, ça part d'une innovation ou simplement d'une idée. Et ensuite, on va vouloir la tester en laboratoire pour commencer à démontrer des bénéfices. Et en laboratoire, dans notre cas, c'est par exemple simplement avec des vidéos chirurgicales. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la salle d'opération. On a simplement récupéré des vidéos. On vient appliquer notre solution. On montre ça à nos chirurgiens et nos chirurgiennes conseillers. Ils nous disent c'est bien, c'est pas bien, puis on va itérer de cette manière-là.
Okay, bien, c'est comme ça que ça s'est fait le processus. Donc, vous avez des chirurgiens et chirurgiennes qui sont comme sur votre comité aviseur ou qui viennent valider ce que vous faites pour
Exactement.
dire avant de pouvoir dire, commencer à le présenter au stade de validation dans les hôpitaux.
C'est exactement ça.
D'où est venue l'idée de ça? D'où est venue l'idée d'avoir, il faut qu'on améliore l'image en endoscopie?
L'idée a démarré quand Amy a fait le programme de chirurgie, d'innovation chirurgicale à McGill.
Qui est, Amy n'est pas docteur, elle n'est pas médecin.
Non, Amy est aussi ingénieure. Mais à McGill, il y a un programme qui s'appelle Innovation chirurgicale et qui est justement, il me semble que c'est une maîtrise et qui permet de mieux comprendre comment une innovation pourrait venir s'insérer en chirurgie.
Donc, ça s'adresse aux ingénieurs?
C'est ça.
OK. On les aime, les ingénieurs. c'est notre blague habituelle. On salue Sophie à la technique qui est ingénieure. Donc, ça s'adresse justement... C'est une autre façon de pouvoir promouvoir la technologie en santé. Parce que si tu offres ce programme-là aux ingénieurs, c'est pour les aiguiller vers quelque chose qui va s'appliquer dans le domaine de la santé. Donc, Amy, c'est à ce moment-là que là, elle a été exposée à la problématique de l'image, du manque de clarté, j'imagine.
Alors, en fait, c'est suite à l'entrevue de 30 chirurgiens et chirurgiennes dans lequel le sujet qui revenait dans 100% des cas, c'était la visibilité pendant les chirurgies minimalement invasives.
OK. C'est un irritant majeur. Donc, tous les chirurgiens, 100% disaient « c'est un problème ».
C'est ça. Et donc ça, c'était dans le cadre de ces études, mais encore aujourd'hui, on a l'occasion de rencontrer des chirurgiens et des chirurgiennes tous les mois, voire parfois toutes les semaines, et à chaque fois, c'est un irritant. Et c'est tellement un irritant, en fait, qu'à chaque fois, ils nous disent ça fait partie de mon quotidien, je vois pas trop comment est-ce que ça pourrait changer. Puis c'est généralement là, quand on monte notre technologie, où tout le monde est assez excité.
Donc la réponse, ça doit être excellente, parce que si c'est un irritant pour 100% des chirurgiens et chirurgiennes, puis vous arrivez avec « on a une solution », ils doivent être tout ouïes, ils doivent avoir hâte que vous leur présentiez.
Ah oui, totalement. Oui, on a vraiment des très, très bons retours à ce niveau-là, à tel point que, il me semble, d'après nos dernières évaluations sur à peu près la quarantaine ou cinquantaine de personnes qu'on avait rencontrées, 85% voulaient l'utiliser.
Donc, okay. Mais ça va m'amener, je ne sais pas si on a le temps, là, on s'approche de notre moment de pause, mais... Justement, comment ça fonctionne? C'est quoi les freins? Parce qu'on sait que le domaine médical, c'est très gouvernementé, ça peut être lourd. Mais quand on a d'un côté une demande importante, tous les chirurgiens veulent, tous disent c'est un irritant, on veut avoir l'outil. Là, vous êtes au stage de validation. Mais ça va être quoi les freins qui vont vous empêcher d'implanter cet outil-là alors que tout le monde le veut?
J'aurais tendance à dire qu'au début de ma carrière, je voyais un petit peu tous les aspects réglementaires comme des freins, et maintenant, je vois plutôt ça comme des nécessités.
Ah, c'est le fun, c'est un point de vue différent, oui. Tu sais, des fois, voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, pourquoi?
Tout simplement parce que quand on développe une technologie médicale, à la fin de la journée, c'est pour traiter un patient, mais avant que ça puisse être commercialisé, puis distribué au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, on veut quand même s'assurer que c'est une solution qui apporte plus de bénéfices que de risques. Et c'est justement à ça que vont servir tous les aspects réglementaires, s'assurer qu'on a une solution qui va causer, plus de bénéfices que de torts pour le patient.
Très logique. Mais là, dans le cas de votre produit, par contre, c'est juste un outil qu'on ajoute. T'sais, il n'est pas en contact direct avec le patient. C'est un logiciel. J'imagine que les torts sont quand même assez limités. Mais là, tu vois, je vais te laisser sur ce suspense-là parce qu'on va aller à la pause puis tu vas pouvoir me répondre au retour.
Excellent.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoon, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Tout sur la littérature.
Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer.
Et ça va générer chez lui une réelle angoisse.
Une série nouvelle s'appelle Le Projet P.
Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres.
Libraire de force!
avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 11h30. CIBL, au cœur de la littérature.
Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h, sur CIBL 101.5.
CIBL.
Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. avec notre invité Timothée Bernard, cofondateur de Vaux Médical, qui améliore la vue chirurgicale en temps réel grâce à une approche basée sur l'IA afin que les chirurgiens puissent se concentrer sur ce qui compte. Et justement, on parlait juste avant de prendre notre pause que le produit que tu voyais, les stages de validation, plutôt comme une bonne chose, parce que ça s'assurait que les produits qui sont développés ou qui sont introduits dans le domaine de la santé procurent plus de bénéfices que de torts. Mais ce serait quoi les torts de votre produit, Timothée, qui empêcherait que ça soit adopté?
Je dirais qu'à notre niveau, c'est surtout à quel point est-ce qu'on est capable de correctement clarifier l'image. Okay. Et vraiment, c'est ça. C'est vraiment s'assurer que ce qui est derrière va être réaliste et que ça va pouvoir aider aussi le chirurgien dans sa pratique.
Puis là, fait que là vous êtes en test de ça. Puis qu'est-ce que les tests montrent à date? Parce que là, vous êtes au stage de validation. Donc, vous êtes dans des blocs opératoires. Votre produit est testé à certains endroits? Ou
on n'est pas encore en bloc opératoire parce que avant de tester ça sur des vraies personnes, on veut d'abord tester ça simplement sur des vidéos chirurgicales.
OK, vous êtes encore au stage vidéo chirurgical.
Exactement.
Puis, les résultats?
Eh bien, les résultats sont vraiment excellents, mais bon, après, comme c'est moi qui développe...
T'es-tu en train de nous dire que t'es un peu biaisé?
ça, c'est pas mal ça l'idée.
Mais c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Comme, puis une start-up là, pour les gens, puis les jeunes pousses qui s'intéressent à ce milieu-là. Puis en plus, on parle d'une jeune pousse qui est dans le domaine de la santé, qui a des particularités qui ne seront pas nécessairement dans d'autres domaines. C'est quoi toutes les étapes? Parce que c'est difficile, il faut le dire, quand même. Il y a beaucoup... tu peux avoir une très bonne idée, mais de là à la commercialisation, tu peux avoir beaucoup d'embûches juste pour te rendre jusque-là, même si ton idée est bonne au départ.
Ah oui, oui, totalement. Puis je pense qu'en moyenne, le développement d'un appareil médical, ça prend de 5 à 10 ans, quelque chose comme ça, entre le
moment... Le financement doit être un grand défi aussi.
Le financement est un très, très grand défi, surtout qu'on ne peut pas vraiment avoir de revenus tant qu'on ne commercialise pas. Et on ne peut pas commercialiser tant qu'on n'a pas les approbations réglementaires. Et on ne peut pas avoir les approbations réglementaires tant qu'on n'a pas des données cliniques qui viennent montrer que, justement, on apporte plus de bénéfices que de risques aux patients.
Donc, déjà là, tu as toutes ces étapes-là. Il faut vraiment que quelqu'un croie à ton projet. Il faut que tu aies les bons partenaires pour pouvoir te rendre jusqu'aux études cliniques.
Exactement. Puis au cours du cycle de vie d'une start-up, il faut vraiment y aller étape par étape. Et à chaque fois, il faut venir aller chercher un financement qui va devenir de plus en plus grand parce que les objectifs deviennent de plus en plus importants, tout simplement. Nous, actuellement, on est à l'étape où on veut démontrer des bénéfices sur des vidéos chirurgicales. Mais ensuite, la prochaine étape, ça va être vraiment d'apporter notre solution dans la salle d'opération, ce qui va nécessiter encore plus d'expertise, encore plus de développement technologique. Mais tant qu'on n'a pas effectué cette première étape-là,
tu peux pas aller à la deuxième.
Tu peux pas aller à la deuxième, exactement.
Donc, comment convaincre des partenaires à ce stage-là? Comment? Parce qu'il faut qu'ils soient patients. Le retour sur investissement, c'est long. Comme tu l'as dit, tu parles de 5 à 10 ans.
Ouais.
Puis votre produit est très niche. En même temps, un produit niche, c'est intéressant, c'est comme 100%. Il y avait une demande de 85%, tu me disais, des chirurgiens qui voulaient l'adopter. Mais il faut que ça soit les hôpitaux, le gouvernement qui débourse l'argent. Donc, comment tu arrives à ça?
Je dirais que dans le cycle de vie d'une start-up, il y a différents types d'investisseurs à différents moments. Mais nous, à notre étape-là, à l'étape à laquelle on est, parce qu'on est encore loin d'avoir des revenus commerciaux, il faut vraiment trouver des personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent parce qu'ils croient dans la vision de la compagnie. Ils croient que ça va faire une différence, ils croient que ça va changer tout simplement la pratique chirurgicale. Donc, c'est à cette étape-là, c'est vraiment plus trouver des, c'est vraiment plus trouver des personnes qui vont croire dans la vision plutôt qu'espérer un retour sur investissement dans une ou deux années, trois ans maximum.
C'est qui vous avez trouvé qui croit dans votre vision?
Il y a différents types de profils. Ça peut être des chirurgiens, ça peut être des chirurgiennes qui vont faire des investissements qu'on appelle anges, des investissements qui sont vraiment très, très risqués à cette étape-là. Mais c'est des personnes qui croient aussi dans ce qu'on fait et qui sont prêts à mettre de l'argent pour qu'on puisse continuer.
Puis comment vous les trouvez, vos investisseurs anges?
Eh ben, ça peut être parfois un email ou ça peut être parfois un événement de réseautage dans lequel un tel, le mari de sa cousine de troisième degré, est chirurgien, puis parfois c'est ça.
Mais c'est comme ça que ça se passe pour vous? Puis est-ce que le centre Dobson, comment il vient vous accompagner là-dedans? Comment est-ce qu'il vient vous aider?
Le centre Dobson organise des événements de réseautage, dont un qui a eu lieu en automne dernier et qui a été vraiment extrêmement important pour nous, parce que c'est là qu'on a rencontré un chirurgien qui nous a littéralement ouvert des portes.
Donc, il est devenu un investisseur ange ou un entremetteur ange.
C'est exactement ça, et qui est aussi un des conseillers de la compagnie.
C'était quoi cet événement-là?
Cet événement-là, c'était justement l'annonce du Pre-Seed Roadshow.
Ah oui, que j'ai eu. Ça, tu me fais le redire. Là. Ça, c'est la tournée internationale pré-amorçage du Centre Dobson. C'est le Pre-Seed.
Oui, c'est ça.
En français, on appelle pré-amorçage. Donc ça, c'est une tournée où est-ce qu'il y a quelques jeunes pousses qui ont été sélectionnées par le Centre Dobson. Et vous, dans le fond, ils vous ouvrent les portes de leur carnet d'adresses dans différentes villes pour pouvoir entrer en contact justement avec des personnes qui peuvent devenir clés dans votre développement d'entreprise.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis récemment, c'était par exemple CES à Las Vegas. À la fin de ce mois-ci, ça va être Vive à Los Angeles.
Ça, c'est des conférences qui regroupent les gens dans la technologie, donc
c'est
pas
ça,
juste la santé.
Les, exactement,
tout
toutes les industries. Mais ensuite, au mois de mai et au mois de juin, on va avoir l'occasion d'aller à Boston, à Paris, à Londres et finalement, il me semble, à Amsterdam.
Outre le fait que ça vous ouvre beaucoup de portes, j'aime le fait que ça soit toujours dans des belles places, mais je comprends que quand vous êtes là, souvent, c'est juste on rentre, on sort, c'est vraiment pour aller faire connaître la compagnie. Mais ça, c'était faire sa part. Donc, c'est ça. Donc, vous avez la chance de vraiment, c'est vraiment international, vous avez la chance de rencontrer des gens un peu partout pour pouvoir, en bon québécois, pitcher l'idée. Parce que c'est ça que vous apprenez à faire. Souvent, des fois, c'est pas tout le temps des pitchs. Hein. C'est ça ce qu'on se disait avant d'entrer en onde. C'est que des fois, c'est juste d'échanger avec des gens qui ont de l'intérêt. Mais des fois, vous avez carrément une scène où est-ce que vous avez deux minutes pour présenter votre projet.
C'est aussi vrai, c'est ça. C'est des pitchs qui doivent être extrêmement rapides. Il faut aller directement au cœur de la cible. C'est une seule opportunité. Il faut aller très, très vite.
C'est une science, ce que je pense, qui se développe et qui vous accompagne pour avoir le pitch qui va se démarquer. Mais à quel point est-ce que c'est important? Comme là, tu disais, c'est là, vous avez rencontré, entre autres, un chirurgien qui est maintenant une personne clé pour vous. Tout ça, cet accompagnement-là, parce que c'est une question d'une mort pour une jeune pousse à votre stage de développement.
Surtout, je dirais, dans notre industrie. Parce qu'il faut quand même se dire qu'à la base, c'est une compagnie qui a été créée par deux ingénieurs qui part d'un besoin clinique. Mais si on n'est pas capable de s'entourer avec des personnes qui sont potentiellement des utilisateurs et qui croient dans l'idée, ça ne donne pas énormément de crédibilité à la compagnie. Et ça peut prendre du temps parce que c'est des relations qu'il faut créer avec les chirurgiens, avec les chirurgiennes. Il faut arriver à démontrer qu'on est capable de développer la technologie, qu'on est capable d'arriver avec les résultats. Puis petit à petit, ça fait un effet boule de neige. Mais c'est très, très important, surtout dans les technologies médicales, d'avoir justement ces spécialistes-là qui sont capables de nous entourer.
De s'entourer. On va continuer à parler, peut-être. Moi, je sais aussi de qu'est-ce que vous trouvez comme les plus grandes embûches, bien, outre de bien s'entourer. Là, puis je comprends que le cycle dans le médical, là, c'est une embûche supplémentaire, mais on est déjà rendu à notre pause musicale et tu as fait un beau choix. C'est une chanson qui donne toujours des frissons. Mais j'aimerais. Est-ce qu'il y a Nous après nous, des Sœurs Boulées?
Ouais.
Pourquoi ce choix, Timothée?
C'est une chanson qui est magnifique. Ça commence avec une progression d'accords au piano qui est vraiment très très belle aussi. Et de manière générale, j'aime beaucoup les musiques qui suscitent la réflexion.
Ce qui est
vraiment le cas de cette chanson-là. Et je trouve que ça résonne beaucoup avec le style de vie que j'essaye d'adopter, à savoir avoir conscience de son empreinte, que ce soit dans son environnement, que ce soit dans sa communauté. Comme dit la chanson, je ne sais pas si on a donné le titre, « Nous après nous
oui. ».
À un moment, la chanson va souvent répéter « Que restera-t-il de nous après nous ?»
Une question qui est valide, très valide à se poser. Bon, on va tout de suite aller écouter « Nous après nous ».
Ici sans pile, les verres se remplissent les yeux. On rassemble les chimères pour inventer des feux. On lance tout dans les airs, on enterre des vœux. Entre la tête et la terre ne se joue que des jeux. On ne m'avait pas dit qu'en arrivant ici, je n'aurais pas l'impression d'arriver. On ne m'avait pas dit qu'une fois arrivé ici, je n'aurais plus nulle part où m'en aller. Que restera-t-il de nous après nous? On est sans loi ni Dieu. Comment fait-on pour savoir où nous guident les cieux? Les plafonds sont des miroirs qui avalent le bleu. On ne m'avait pas dit qu'en arrivant ici, je n'aurais pas l'impression d'arriver. On ne m'avait pas dit qu'une fois arrivé ici, je n'aurais plus nulle part où m'en aller. Restera-t-il de nous après nous? Que restera-t-il de nous après nous? Que restera-t-il de nous après nous? La main qui grandit est la main qui celle qui se noue. La main qui guérit est la main qui celle qui se joue.
Bonne réflexion, parce que c'est ce que cette chanson-là nous amène à faire. Alors, très belle chanson. Merci pour le choix, Timothée. Alors, on était encore dans les étapes de validation. Vous vous êtes fait une feuille de route, je pense, chez Vote Médical, mm-hmm. pour pouvoir amener les étapes. ce que je comprends, c'est que plus on avance dans les stages de validation, plus ça prend des capitaux, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui nous ont supportés au début qui sont encore là à la fin parce que, à moins que tu aies une réserve de capitaux illimitée, ces gens-là, il y en a qui nous aident à partir le projet, puis on doit trouver d'autres personnes qui nous aident à poursuivre le projet.
C'est exactement ça. Puis même encore plus loin dans le projet, il faut trouver d'autres sources de financement pour la commercialisation, parce que la commercialisation vient avec des enjeux qui sont aussi différents. Mais c'est ça, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que tout au long du cycle de vie d'une start-up, c'est pas les mêmes personnes qui fournissent le même support à tous les moments.
Ça doit demeurer justement un défi, surtout, on le disait, mais on se répète, les produits de niche comme le vôtre, l'idée est bonne, mais il faut... probablement que le nerf de la guerre, c'est de se rendre jusqu'au bout.
Ah, c'est totalement ça. Et c'est aussi pour nous, il faut aussi qu'on soit capable de démontrer que la technologie, on peut la développer et qu'elle apporte des bénéfices. Parce que amener une technologie dans la salle d'opération ou dans un hôpital qui n'apporte pas de bénéfices, personne ne va vouloir l'acheter.
C'est évident. Mais là, vous semblez bien parti. Maintenant que tu as sauté la clôture des postes clés dans des jeunes pousses à cofondateurs, c'est quoi la différence d'expérience pour toi? Maintenant que tu es un entrepreneur à part entière...
C'est une expérience qui est extrêmement intéressante parce que là où avant je me concentrais plus sur les aspects technologie et développer la technologie, là je me retrouve de l'autre côté à vraiment établir c'est quoi la feuille de route de la technologie, c'est quoi la stratégie de la compagnie, comment est-ce qu'on va approcher les investisseurs, comment est-ce qu'aussi on va établir des relations avec les chirurgiens et les chirurgiennes, venir les entretenir. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien parce qu'après avoir passé un peu moins d'une quinzaine d'années à développer la technologie, là je me retrouve plus sur des postes stratégiques.
Et tu vois l'autre côté, c'est ça.
C'est exactement ça.
Puis est-ce que ça vient, t'as l'impression que ça a augmenté ton degré de stress parce que là ça repose beaucoup sur tes épaules. Avant ça reposait sur tes épaules d'un point de vue technologique, mais tu n'avais pas à te soucier de trouver des investisseurs, d'établir les relations. Comment tu vis ça?
Bizarrement, plutôt bien.
Oui?
Plutôt bien.
Fait que t'étais prêt?
Oui, c'est ça. Puis je pense que justement, toutes les expériences que j'ai eues précédemment m'ont permis de mieux comprendre comment venir attaquer l'entrepreneuriat. C'est quand même... Quand on a déjà le bagage technologique... On peut se concentrer sur les aspects qui sont nouveaux, qu'on n'a pas encore explorés. Au moins, il n'y a pas ces deux aspects-là qu'on découvre en même temps.
Puis, comment vous partagez le rôle avec Amy, avec ta cofondatrice?
Mm-hmm.
Vous faites équipe. Est-ce que tu trouves ça difficile d'être en équipe ou plutôt comme vous êtes très complémentaires?
Non, on est vraiment très, très complémentaires à ce niveau-là. Amy est très intéressée par tout ce qui concerne justement le financement, les investissements, la relation avec les chirurgiens et les chirurgiennes. Et moi, je suis plus sur les aspects, on va dire, technologiques, évidemment, aussi les aspects réglementaires et vraiment s'assurer que le développement du produit est bien aligné sur toutes les différentes tracks.
Pour être sûr que justement, vous n'avez pas des blocages parce qu'il y a un aspect réglementaire qui aurait été outrepassé. C'est ce que toi, tu t'assures, on va le développer dans les règles de l'art pour qu'on n'ait pas ces embûches-là qui s'ajoutent à celles du financement.
Exactement.
Timothée, si tu avais un conseil pour des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager, que tu as appris jusqu'à maintenant?
C'est peut-être pas un conseil qu'on entend tous les jours, mais si vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut quand même avoir une certaine solidité financière. Parce que ça se passe rarement comme on pense. Donc, c'est ça. Si votre budget, c'est par exemple, si vous lancez dans l'entrepreneuriat et que votre budget personnel, c'est juste 3 mois, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait sûrement reconsidérer certaines choses. Parce que...
Donc, qu'est-ce que vous, votre budget personnel, c'est que vous aviez de l'argent dans. C'est ça, au début, vous n'avez pas d'argent. C'est quand, au début, l'entrepreneur, tu ne te prends pas de revenus. En fait, même, tu es obligé d'en investir dans ta compagnie.
C'est exactement ça. Il y a quand même au Québec de l'accès à du financement qu'on appelle non dilutif. Ça peut être des bourses, surtout si on va, par exemple, dans des incubateurs, dans des accélérateurs. Ça, disons que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup quand même, oui.
Oui, mais il faut être quand même capable d'accepter qu'il y a une période où tu n'as aucune idée de l'argent que si tu
vas totalement. Faire l'argent. Totalement. Surtout pour les technologies médicales où, encore une fois, les revenus n'arrivent pas tout de suite. C'est pas vrai pour toutes les technologies médicales parce qu'il y en a qu'on peut commercialiser plus tôt que d'autres. Mais par rapport à ce que nous, on fait, on ne prévoit pas une commercialisation avant plusieurs années.
Oui, fait que c'est ça. Ça veut dire que pendant plusieurs années, tu n'auras pas de revenus. Éventuellement, il faut se prendre un revenu minimal. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de prévoir?
Oui, totalement. Et c'est totalement lié à l'argent qu'on réussit à récupérer au fur et à mesure. Et aussi par rapport aux rondes de financement qu'on établit et par rapport aux bourses.
Ouais.
C'est ça. Mais on ne peut pas non plus garantir à chaque fois. Après, c'est vraiment un conseil que je donne parce que avoir justement une certaine solidité financière ou au moins savoir avoir un budget prévisionnel, ça peut retirer beaucoup de stress. L'entrepreneuriat, c'est déjà assez stressant. Et si en plus, ça commence à avoir un impact sur notre vie personnelle parce qu'on n'est plus capable d'avoir le style de vie qu'on veut ou simplement de pouvoir payer ses factures, c'est mélanger les deux types de stress. Je ne pense pas que ça...
C'est pas recommandé.
C'est vraiment pas recommandé.
Probablement qu'on ne sera pas capable de durer. Parce que je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, surtout les premières années. C'est un marathon, même un ultra-marathon. Il faut être capable de se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée.
Oui, totalement. Après, c'est un conseil que je donne, mais de l'autre côté, c'est vraiment une expérience qui vaut le coup. Pour moi, je dirais que le meilleur aspect de mon métier, c'est vraiment quand on vient montrer notre technologie aux chirurgiens et aux chirurgiennes et qu'ils nous disent « Waouh, j'ai besoin de ça ».
C'est pourquoi tu le fais.
Voilà, c'est ça.
C'est ta motivation.
Ouais, c'est notre motivation.
Puis à quel point c'est en ligne avec tes valeurs? C'est quoi les valeurs qui sont incontournables pour toi? Parce que tu as mentionné, tu étais venu là-dessus quelques fois dans l'émission. Fait que je pense que c'est comme ça que tu vis ta vie, c'est important. Puis maintenant, en tant qu'entrepreneur, puis avec Vogue Medical, quelles sont les valeurs essentielles pour toi qui sont en ligne avec ton projet?
C'est vraiment avoir un impact positif sur les gens, sur la société, aussi sur le système de santé. Parce que quand on développe des technologies, c'est souvent pour d'une certaine manière améliorer le système de santé. Ça peut être par exemple, dépendamment des cas, avoir accès à des diagnostics plus tôt. Ça peut avoir aussi des traitements qui sont plus efficaces.
Et qu'est-ce que vous voulez changer dans le système de santé? C'est quoi que... Tu as une baguette magique dans 5, 10, 15 ans. C'est où est Vogue Medical? Puis quel a été votre impact sur la santé?
Nous en fait, c'est à la fois sur le... Je vais oublier le terme en français, mais le backlog chirurgical.
Ah oui, tout le temps d'attente, en fait.
Parce qu'on développe une solution qui permet de gagner du temps pendant les chirurgies. Et quand des chirurgies, il y en a des milliers par jour, ben même venir 10%, même gagner 10%, c'est quand même 100.
Ça s'additionne au bout de chaque chirurgie. Ça veut peut-être dire qu'au bout de la journée, on en a fait 2-3 de plus.
Mm-hmm.
Puis à coup de 2-3 par jour, ben ça va finir par faire une différence.
C'est ça. Puis on a aussi une solution qui permet, on l'espère, après il va falloir l'étudier, mais potentiellement réduire le stress de l'équipe chirurgicale. Parce que comme on l'expliquait un petit peu tout à l'heure, pendant les chirurgies, parfois il y a des moments critiques où on n'a pas la visualisation qui est adéquate. Et il faut qu'on retire les équipements, qu'on vienne les nettoyer. Puis ça, à la fin, c'est beaucoup de stress. Puis c'est du stress qui est cumulé tout au long d'une journée.
Quand le chirurgien est rendu à sa dernière chirurgie qu'il a fait par cette journée-là, puis des fois, c'est des chirurgies qui vont vite parce que c'est minimalement invasif. Fait que je ne sais pas combien ils peuvent en faire dans une journée.
Ça varie grandement. Ça peut être de 2 à 5, 6, parfois
c'est
plus.
C'est ta sixième dans la journée. Toute cette frustration-là, comme tu dis, est cumulée versus mm-hmm. juste avoir eu ton attention sur regarder l'image.
Mm-hmm.
Ça peut faire la différence si tu es le cinquième ou sixième patient.
C'est ça. Et puis potentiellement aussi sur les erreurs chirurgicales qui peuvent apparaître justement à cause d'une mauvaise visibilité. C'est aussi quelque chose qui est référencé dans la littérature. Ça peut vraiment varier d'un type de procédure à un autre. Mais il peut y avoir des complications chirurgicales qui sont dues à une mauvaise visibilité pendant la chirurgie.
Fait que c'est ça qu'on veut diminuer. Donc, exactement. On est dans notre dernière minute. Vogue Medical dans 5-10 ans?
Vogue Medical dans 5-10 ans... ce sera une compagnie qui, on l'espère, sera un des pionniers justement dans apporter l'intelligence artificielle dans la salle de chirurgie pour des opérations qui sont plus sécuritaires et plus efficaces pour tout le monde.
Ah ben voilà, parfait. J'adhère à ça. On va se laisser en musique. Timothée, tu as fait un dernier choix musical, Damoiseau, Grande Bleue. Pourquoi ce choix?
Pour moi, Damoiseau, c'est un groupe que j'adore, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Festival Django l'été dernier. C'est un groupe de... Je pense qu'il se qualifie un petit peu comme jazz manouche, mais je dirais même un petit peu plus. Et ils font vraiment de la très bonne musique. Pour moi, c'est très important de supporter les artistes locaux.
Oui.
Et particulièrement des personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer.
Toujours, ça rend ça toujours plus spécial. Et oui, puis on sent l'amoureux de la musique en toi.
Ah, OK, c'est gentil. Et c'est une chanson qui est... C'est une chanson qui est absolument magnifique, qui mélange à la fois le lyrisme, le jazz manouche, puis c'est cette invitation au voyage aussi. Le titre de la chanson, c'est Grande Bleue. C'est vraiment une très, très belle chanson.
Merci, Timothée Bernard, d'avoir accepté notre invitation à Intention Inc.
Un grand plaisir.
Très content d'avoir appris plus sur toi puis sur Vaup Medical. Merci au Centre Dobson de McGill pour la collaboration. Merci à Gilles Lamarche à la mise en onde, Sophie à la technique. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. C'est un réel plaisir de partager nos échanges et d'apprendre comment des entrepreneurs à succès ont pu passer de l'intention à l'action. Nos émissions sont disponibles en balado sur la réécoute sur le site d'intentioninc.ca. On se retrouve jeudi prochain, midi au 101.5, pour une nouvelle rencontre. Ciao!
J'attendais mon aimé, qui ne devait pas tarder. Le clocher résonna pour la cinquième fois. Il arriverait sûrement en courant, en riant, en hurlant à la lune et à ses éclats blancs. J'attendais ma moitié, celui qui de sa plume m'avait promis l'écu pour tapis de courage. Celui qui de sa rage avait conquis déjà la belle déferlante et ses flots indomptables. Oh, grande bleue, si tu entends ma voix, emmène-moi où les rêves commencent. Oh, grande bleue, porte-moi dans tes bras, montre-moi la couleur des étoiles d'ailleurs. L'aiguille comptant les heures se figea à l'ouest. Je n'avais pas le cœur à lui donner du lest. Le soleil s'étonnait de me voir réveillée. Lui tombait de sommeil, semblait m'abandonner. Les mains de mon amour ne sont pas apparues quelque part au détour de mes épaules nues. Le froid brûlait ma peau et les rires salés s'entendaient en écho dans la nuit argentée. Je volerai sur les eaux. Échelle, m'a dit bienvenue à bord, ma jolie demoiselle. J'ai regardé la rive s'éloigner sans regret et j'ai pensé tout bas, me voilà dans tes bras.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
La girafe en bleuse. Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL, au creux du sillon. La girafe en bleuse. À chaque semaine, Jean Gagnon Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h.
CIBL 105, Montréal.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
Allô, vous écoutez